le quart d'heure en juin. Votre rendez-vous des musiques de l'Anjou. Le samedi de 14h à 15h.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission spéciale du quart d'heure en juin, Marc et moi vous proposons d'écouter une conversation avec Titi Robin à l'occasion de la sortie de son nouvel album « Le sable et l'écume ». L'homme est magnifique d'humilité et de modestie, et la conversation, vous allez l'entendre, est de haute intensité. Bonjour Titi Robin.
Bonjour à vous et merci de cette invitation.
Bienvenue dans le studio de Radio G. Votre nouvel album, Le sable et l'écume, sortira le 6 décembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cet album ?
Oui, tout à fait. Et ce projet, il est vraiment né de l'idée de réunir des collègues musiciens et amis en tant que solistes et de les réunir autour d'un projet commun. J'avais envie d'avoir quatre voix instrumentales qui se complètent, qui discutent, qui échangent, à partir d'un répertoire que j'aurais composé et à partir de règles du jeu que j'aurais définies. Et c'est ce qu'on a fait. Du jour où j'ai su que j'avais ces trois invités autour de moi, dans l'heure qui a suivi, j'ai commencé à composer.
Cet album, moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter à plusieurs reprises, en tout cas la maquette, pour que les auditeurs le comprennent. Nous allons écouter un premier extrait.
Thank you.
ça, c'est la première partie du premier titre de cet album. Et en le réécoutant là, j'ai l'impression qu'elle nous dit tout du travail que vous avez fait dans cet album. On entend les quatre musiciens qui sont présents avec une intensité égale, mais je ne crois pas que ce soit une question d'intensité. J'aurais presque tendance à dire une écoute égale.
Oui, je pense. Il y a l'écoute, je pense qu'il y a l'intensité, en tout cas l'intention de ma part d'avoir en permanence quatre voix, quatre paroles qui s'échangent. Donc il n'y a pas de hiérarchie orchestrale avec des gens qui accompagnent d'autres. Donc tout l'album, je souhaitais qu'on ait ces quatre paroles. Parfois, donc il y a quelqu'un qui va avoir une parole un peu plus forte, mais les autres sont là toujours et commentent. Et puis il y avait un défi pour moi c'est pour ça que j'ai demandé à Manu Leduigou, l'ingénieur du son, de travailler sur cet album. Il y avait l'idée qu'il n'y ait pas du tout de compression, donc un son le plus naturel possible, et qu'en même temps on arrive à ce qu'il n'y ait pas d'effet de masque, qu'on puisse entendre tous les instruments entre eux. Et là, écouter dans ce studio, donc c'est la première fois que j'écoute le disque ici, il est tout frais, sorti d'usine. Et donc là, c'est un environnement sonore différent, mais je me régale, je suis très heureux moi aussi.
Nous aussi.
On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que vous partez à la conquête d'un autre territoire, que vous allez vers le jazz.
Alors je sais que c'est une remarque qu'on me fait depuis le début, depuis que je partage les écoutes de ce projet. À chaque fois, je réponds non, pas du tout. Je suis sincère dans ma réponse, mais je comprends bien la remarque, parce que pour moi, dans ma démarche, le point réel de rapprochement avec le jazz, c'est dans le fonctionnement orchestral, c'est-à-dire que on a une formation orchestrale avec des cordes, la mégitare, bouzouk et le oud. Bon, ça pourrait être une guitare de jazz. Il y a un souffleur qui joue cor anglais ici, clarinette basse ou saxophone. Donc, saxophone, guitare, c'est assez classique. Et puis, une contrebasse et une batterie. Donc, avec des thèmes que nous jouons ensemble et ensuite des prises de solo individuelles. Ça vient du jazz, c'est certain. Mais mon vocabulaire ne vient pas du tout du jazz. C'est-à-dire le langage qu'on utilise, c'est de la musique modale, il n'y a pas du tout d'harmonie. Et puis un jazzman ne jouerait pas ces thèmes comme on les joue et n'improviserait surtout pas du tout comme on joue nous. Parce que dans la musique modale, il y a des règles pour l'utilisation des différents degrés des modes. Et je pense que la quête de esthétique ne se fait pas de la même manière. Mais au niveau du son, effectivement, quand je l'entends aujourd'hui, le résultat, je comprends tous ces parallèles et je pense que je n'ai pas fini d'en entendre parler. Puis, il y a deux pays où je voudrais vraiment jouer ce quatuor, c'est aux États-Unis et en Inde. En Inde, parce qu'il y a beaucoup de modes qui sont inspirés dans ce que je joue par la musique indienne et que moi, j'ai une carrière en Inde depuis longtemps, donc j'ai envie de proposer ça pour voir comment réagiraient les musiciens indiens. Et puis, aux États-Unis, parce que ça m'intéresse d'arriver avec un quatuor comme ça, qui ressemble au quartet de jazz, par le son, mais avec un langage qui ne doit rien à la musique anglo-saxonne. Ça veut dire qu'on a quelque chose vraiment à apporter. On n'est pas du tout dans une copie de ce qui peut se faire là-bas. On a un autre langage qui est plus méditerranéen, plus oriental. Mais ça m'intéresserait beaucoup de confronter ces deux mondes.
Je vais faire une chose qui n'est pas bien. C'est que j'ai pris un extrait d'un titre qui s'appelle « Le lait cru de la vie ». Et puis on va écouter.
Thank you.
au Vanguard, à New York, ça marche.
Oui, puis peut-être à Addis Abeba, parce que là, c'est la première fois que je l'entends aussi un peu comme l'étude jazz.
Oui.
Cette musique éthiopienne inspirée des années 60, inspirée aussi par le jazz. Parce que là, le saxophone respecte toujours le mode, alors que dans le jazz, non. Donc, le jeu est beaucoup plus libre. Mais c'est vrai que c'est troublant, ce son jazz.
Mais
je dois
faut avouer. Hein.
Oui, oui, puis à l'écouter avec vous deux, je l'entends différemment aussi.
Sachant que là, on entend beaucoup Renaud-Gabriel Pion, mais que ces instruments, souvent dans l'album, s'orientalisent, enfin, chantent très différemment à d'autres endroits de l'album. C'est pas du tout le même son que celui qu'on entend là. Mais on est quand même très loin de Rebelle Diwana.
Eh bien, en fait, le thème qu'on joue là, c'est un thème de Rebelle Diwana.
Oui.
Oui. C'est le thème que j'ai repris de Rebelle Diwana pour faire le lien. Et donc, vous pourrez écouter, c'est dans Tisse intimement ce voile que tu déchireras demain, qui est un des thèmes de Rebelle Diwana. Donc, et on joue cette mélodie-là, mais c'est très très différent, mais ça vaut le coup de comparer.
Ben, va falloir que j'y retourne alors. Marc, toi tu es allé voir le 14.
Oui.
T'es allé voir le 14 l'an dernier au Quai. Oui, alors
je voulais vous relater mon expérience donc du jeudi 21 décembre 2023, c'était il y a près d'un an, mais c'est toujours d'actualité. J'avais pris quelques notes pendant et après le spectacle et maintenu le contact avec Titi pour vous en reparler, chères auditrices et auditeurs, le moment venu. Alors, la salle du T900 du Quai est pleine à craquer d'un public acquis au régional de l'étape, prêt à entendre le répertoire de l'album futur du Titi Robin Quatuor, nouvelle formation. À la base, des compositions de Titi sur lesquelles viennent improviser tour à tour l'angevin Renaud-Gabriel Pion au cor anglais, clarinette basse ou saxophone ténor, Chris Jennings à la contrebasse, Zé Luis Nascimento aux percussions et bien sûr Titi au bouzouk, à la guitare et au oud. J'avais déjà pu voir plusieurs fois Titi Robin dans des formations à chaque fois renouvelées. La dernière était avec le trio du Bled, composé de ses potes et voisins de Rabelais, venus pour soutenir le collectif Infusion, qui organise en moyenne un événement par mois, ainsi que des stages de pratique artistique dans un tiers-lieu, le Séchoir à Chanzeau, et que j'avais en son temps relaté dans le quart d'heure angevin. 20h09, les musiciens entrent sur scène. Titi nous remercie d'être venu, nous raconte que c'est une première pour lui, qu'il considère cette soirée comme la naissance de son album puisqu'il n'a jamais été joué en public et n'est d'ailleurs pas encore enregistré. Que la date est parfaite pour un lancement puisque nous sommes pile au solstice d'hiver. De plus, n'ayant jamais démarré une tournée à Angers, c'est là aussi une première. Et il nous précise qu'il s'est offert un pupitre, mais qu'il ne lit toujours pas la musique, que chaque musicien a ses petites notes et signes sur lesquels sont réglés le cheminement du set. Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Ça, je l'ai piqué à Jacques Brel. J'ai eu envie de crier « ça va très bien se passer, Titi, ne t'inquiète pas », mais je l'ai simplement soufflé à mon fils, persuadé comme la majorité du public que l'expérience nous serait bénéfique, rassembleuse, profitable en tout point de vue. 20h13, début du concert, 20h26, fin du premier morceau, qui donnait suite à une présentation des musiciens et du contexte de création de l'album à venir. Le groupe est très affûté avec ses personnalités diverses pour jouer en solo, duo, trio et aboutir en quatuor pour se retrouver ensuite en trio, puis duo et revenir en solo à tour de rôle, se répondant sans pour autant nous laisser penser à une forme péjorative d'improvisation, car si tel devait être le cas, elle est magnifiquement maîtrisée. Il ne semble plus y avoir de leader, les compositions sont de Titi Robin, mais on y entend aussi bien du jazz presque classique avec des incursions free jazz, voyez, on y revient, rythmé de temps à autre par des percussions qui donnent une sonorité plus métissée. Sans chercher de comparaison, le titre, alors pardon pour la prononciation, Aziklar Berami Issin, m'a par exemple transporté chez Weather Report, et ce n'était pas la seule similitude que j'ai pu y trouver. Et quand Titi reprend la direction de l'orchestre, c'est bien le nouveau Titi Robin que l'on découvre. Le public, lui, peut se trouver décontenancé, ne sachant pas trop entre les solos et les impros quand applaudir, et parfois largement à contre-temps. Qu'importe, la musique est finalement le ciment qui rassemble et les musiciens et leurs spectateurs. 21h45, fin du concert, Titi remercie ses collègues et néanmoins musiciens et compagnons, et aussi son équipe technique, au son Guillaume Dubois, aux lumières Nico Bidet, à la régie LMD Productions. J'ai pris des notes. Et aussi la ville qui n'avait jamais eu tant envie de le recevoir à domicile et lui offrir cette merveilleuse acoustique que propose la salle T900 du Quai. Le personnel aussi qui nettoiera le passage de 900 personnes venues les écouter, nous en l'occurrence, et tous à tour de rôle de se voir applaudir également. Titi nous a régalé en nous surprenant beaucoup, en partageant cette expérience avec ses amis musiciens et le public angevin. Quelle que soit la formation qui l'entoure, sa générosité n'est jamais feinte. Et pardon Titi si ta modestie doit en souffrir, mais je ne tarie pas d'éloges à ton encontre, car un concert d'une de tes formations diverses et variées est toujours une expérience à chaque fois nouvelle et généralement un beau voyage musical. C'était le jeudi 21 décembre 2023. J'ai beaucoup apprécié depuis de redécouvrir le sable et l'écume qui sortira maintenant le 6 décembre. Voilà, c'est le moment de conclure ma chronique sur Radio G 101.5. C'était Marc qui vous a présenté une partie de la genèse du dernier disque de Titi Robin à laquelle j'ai eu la chance de participer. L'album Le sable et l'écume, inspiré d'un poème écrit par notre invité, au titre éponyme, extrait d'un recueil intitulé « Je t'ai bu sans sucre mon amertume » paru aux éditions Rive Neuve. Ce dernier disque du Titi Robin Quatuor sortira le 6 décembre prochain. Vous le trouvez chez votre fournisseur habituel. Allez-y les yeux fermés mais les oreilles grandes ouvertes, c'est du plaisir assuré.
Eh bien merci Marc, je n'ai presque plus rien à dire après de tels éloges.
Alors ça fait
j'ai
quoi
apprécié, je le dis.
Ça fait quoi d'entendre ça en live?
Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. On a besoin d'être encouragé. Et voilà, ça me fait chaud au cœur.
Ok, merci. Mais c'était un très beau moment.
Alors, on l'a dit et vous l'avez dit dès le début, cet album, c'est quatre personnes qui le fabriquent, en fait, cet album. Trois de vos compagnons, des compagnons de route et pas forcément. Alors, le premier d'entre eux, René-Gabriel Pion, est-ce que vous pouvez nous le présenter, Renaud-Gabriel Pion, qui est quelqu'un avec qui vous avez déjà joué?
Oui, en fait... Ça fait de nombreuses années qu'on a commencé à collaborer tous les deux. Et j'ai dû l'inviter pour la première fois, ça devait être pour le disque Kali Gadji. Et puis, il était très présent dans Un ciel de cuivre. J'ai eu beaucoup de clarinettes dans cet album. La clarinette basse aussi, un petit peu de sax. Et puis, on a tourné ensemble, on a été compagnons de route pendant assez longtemps. Puis là, ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vus. Donc, ça a été des retrouvailles. Et il a participé à des albums de l'autre jeu aussi. Mmh. Il est originaire d'Anjou, même s'il vit à Paris depuis longtemps. Et c'est un soliste exceptionnel. Et j'ai beaucoup cherché qui pourraient être les membres de ce quatuor. Et en fait, je connais personne d'autre en tant que souffleur qui ait autant de personnalité et qui ait un langage qui puisse correspondre à mon projet, c'est-à-dire de musique modale, sans caricaturer des musiques orientales ou autres, des musiques indiennes, c'est-à-dire il a son propre univers. Du coup, on n'entend pas comme une fusion quand il joue, on entend une personne qui parle, qui s'exprime. Au premier degré, c'est ce que je souhaitais.
Ça, c'est pour le souffleur. Et puis, il y a Chris Jennings.
Chris Jennings,
contrebasse.
Oui, voilà, c'est un contrebassiste canadien qui vient du jazz. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il vit à Paris. Il a beaucoup collaboré avec en dehors du monde du jazz, où il tourne avec beaucoup de monde, mais il a eu des expériences avec des musiciens méditerranéens depuis longtemps. Et on a joué ensemble dans un trio qui s'appelait Nargis, puis dans un duo. mais ça n'a jamais tourné énormément. Mais on était très très contents de notre collaboration. Et donc là, c'était l'occasion pour moi de parachever et puis d'approfondir nos échanges. Et pour moi, la contrebasse, c'est le prolongement du jeu du guimbri, donc cet instrument basse marocain, Gnawa. J'avais fait un disque avec Mehdi Nassouli et j'ai beaucoup joué au Maroc pour le festival Gnawa à Essaouira. Et donc, c'est une culture pour moi qui est proche. Et c'était très intéressant de prolonger ce jeu-là avec la contrebasse de quelqu'un comme Chris. Et grâce aussi à Manu Leduigou, l'ingénieur du son, on profite vraiment de la chaleur de son instrument, de son jeu. Et je me régale aujourd'hui à réécouter ça.
Il y a une densité extraordinaire. Cette contrebasse, elle chante. On entend toute la profondeur, toute la texture de l'instrument. Enfin, c'est éblouissant. Moi, j'ai écouté ces passages, enfin, le passage qu'on a passé tout à l'heure, et plusieurs séquences sont vraiment extraordinaires en termes d'instruments. Voilà, c'est pas une vulgaire basse, quoi. C'est une contrebasse. Et c'est une vraie contrebasse qui est respectée.
Oui, oui. Et il a un très bel instrument, en plus, du fait que ce soit un magnifique musicien. Que jouait c'est la sœur d'une contrebasse qu'avait Palo Danielson, qui enregistrait beaucoup pour le label ECM.
On en parlera.
On
en parlera. Et puis, il y a est-ce qu'on peut dire le compagnon de toujours, Zé Luis Nascimento ?
Oui, ça fait 25 ans qu'on joue ensemble. On a joué dans le monde entier, de Bombay à Gaza, jusqu'à Los Angeles, voilà, et on se connaît vraiment bien, et c'est quelqu'un avec qui je sais qu'on a toujours on a encore une marge d'échange, de terre à défricher et à déchiffrer ensemble. On a beaucoup de complicité, on se connaît très bien, on peut se permettre tout quasiment quand on est en duo et qu'on improvise tous les deux. Je me souviens d'un concert à la Criée à Marseille où on a joué un quart d'heure de solo pur. J'arrêtais le rythme, je jouais hors du rythme, lui aussi, et on repartait sur une autre rythmique. Et on a mis le public de Marseillais en feu avec ce duo, et c'était incroyable, mais c'était vraiment basé sur notre complicité. Puis c'est un des grands percussionnistes que nous avons aujourd'hui.
Alors ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'effectivement, quand on l'écoute intégralement, vous pesez le même poids. Les quatre éléments pèsent le même poids. C'est-à-dire, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un leader ou pas, mais on sait que celui qui va prendre un peu les commandes à un moment donné, les autres sont là, présents, mais il y a une l'empathie mutuelle, réciproque, lorsque vous jouez.
Oui, c'est vraiment ce que je souhaite. Et bon, on a bien sûr joué en live, tous ensemble, et donc on pouvait interagir. Et même quand on accompagne quelqu'un qui prend un solo et qu'on fait quelque chose de très simple, ce commentaire tout simple, il doit être plein de vie, il doit y avoir plein de nuances en écho de ce qui est dit par le soliste. Et moi, j'ai besoin que ça circule, là, cette information-là. Pour moi, vraiment, la musique, c'est un langage et ça sert à partager notre vision du monde, nos sentiments. C'est essentiel et ça doit commencer par cette circulation à l'intérieur du groupe.
Alors, vous l'avez dit dès le début, ce projet, c'est vous qui l'avez voulu. C'est-à-dire que, alors vous n'avez pas écrit de partition, puisque j'ai bien compris que la partition chez vous, c'était peut-être pas l'instrument premier, mais vous avez commencé à noter des choses. À quel moment vous avez, pensé à ces trois autres compagnons? Et à quel moment vous avez commencé à travailler ensemble? Parce que j'imagine qu'entre ce que vous avez conçu et ce qui s'est réalisé, il y a les contributions de chacun qui sont arrivées.
Oui, au niveau des partitions, en fait, deux des musiciens, Chris et Renaud, sont des lecteurs. Donc moi, je leur ai joué les thèmes, je leur ai envoyé des enregistrements, des thèmes que je jouais, et eux, ils ont commencé par tout écrire pour avoir leur partition.
Oui.
Et ils étaient capables de me dire après, non, non, Titi, j'ai la partition, c'est pas ça qu'on joue ici. Voilà, et je pouvais pas vérifier sur les papiers. concerne, parce que je suis analphabète. Mais oui, donc voilà, on a fonctionné comme ça. J'ai proposé. Après, il y a une incarnation qui se fait. Parce que même quand c'est... J'ai écrit en pensant à eux, parce que j'ai commencé à composer une fois que je savais qui ça allait être. Et donc, ça m'inspirait, le fait de savoir que c'est eux qui allaient jouer. Mais quand même, on est toujours surpris au moment où on joue, déjà les thèmes, et puis lors des solos, puisque tout en respectant les règles du jeu, ils prennent la parole en leur nom propre. Donc, il se passe tout un tas de choses, on est surpris. Il y a une incarnation qu'on découvre et c'est troublant parce que, quelque part, le quatuor lui-même, il prend son autonomie par rapport à mon propre, par rapport à la propre idée que j'avais de ce projet. Donc, voilà, on a beau connaître les parents, le bébé, il a son propre destin.
Il s'émancipe très tôt.
Oui, tout à fait.
Et c'est la musique. Et alors, ça amène à deux choses. D'abord, cet album... et c'est pas un reproche, au contraire, bien entendu. Il est très long, il fait 75 minutes. C'est pas un standard courant sur un album. Ça veut dire que, enfin du moins, est-ce que c'est important, cette durée, pour que chacun puisse s'exprimer complètement ?
C'est pas une règle, parce que parfois on peut faire des objets qui sont courts et très denses. Mais là, il était clair que le projet, ce n'était pas un projet commercial où il fallait accrocher l'oreille d'emblée, séduire à toute vitesse. Là, je ne voulais pas du tout me restreindre. Donc, pour le vinyle, qui est un double vinyle, bah, y a deux morceaux par face. C'est comme ça. Donc, au bout de deux morceaux, bah, il faut tourner la galette. Mais ça me plaisait de pas avoir cette contrainte. J'ai fonctionné comme un peu comme de la musique classique ou une musique savante quelconque qui n'a pas de contrainte commerciale. J'avais besoin de cette durée. J'avais besoin de prendre le temps de développer, de donner aux musiciens le temps de pouvoir développer leur prise de parole. Ça, c'était dans mon idée dès le départ. Ça fait partie du caractère du projet.
Il y a la durée, il y a les musiciens. Il a été enregistré où ?
On l'a enregistré à Pernes-les-Fontaines, donc le studio de La Buissonne, de Gérard de Haro, qui est un studio qui travaille souvent avec le label ECM, et sinon qui a son propre label également, et qui enregistre beaucoup d'albums de jazz. C'est principalement un studio où on enregistre du jazz. Et Zé Luis Nascimento et Chris Jennings ont leurs habitudes là-bas. Et moi, j'avais déjà enregistré un album Taziri avec Medina Souli. Donc, j'avais été très bien accueilli et on était ravis de pouvoir travailler là-bas. Mais l'ingénieur du son, ce n'est pas Gérard de Haro, le propriétaire du lieu, qui lui est un très bon ingénieur du son. Mais j'ai invité Emmanuel Edouigou parce que je l'avais rencontré, j'appréciais beaucoup son travail. Et donc, le projet s'est fait avec Manu.
Pour l'enregistrement d'un album de cette nature-là, comment ça se passe ? C'est un live qui est pris sur chaque morceau. Vous envoyez les morceaux et la prise de son se fait. Comment ça se fait ? Parce que quand on écoute les morceaux, ils sont d'une grande homogénéité. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'accrochage. Ils tiennent la route. Et moi, le sentiment que j'avais, c'est que vous êtes entré en studio, vous avez joué, ça a été enregistré en live, quoi, en fait.
Oui, tout à fait. Bon, il a fallu souvent plusieurs prises. La plupart du temps, c'était parce que, comme on avait joué qu'une fois ensemble, c'était OK, à ce concert à Angers. Et sinon, on avait répété. Mais là, depuis plusieurs mois, on ne s'était pas vu. Et donc, ce n'est pas un quatuor qui a une maturité, il est tout frais. Donc on avait besoin de rejouer deux ou trois fois le morceau. Mais on enregistrait dès le premier. Mais la plupart du temps, ben c'était la troisième prise qui était la bonne parce qu'on avait repris nos marques, tout simplement. Mais c'est intéressant, c'est que Renaud, qui lui est un musicien très méthodique, qui préparait ses instruments. Le cor anglais, ça a besoin de beaucoup de maîtrise aussi au niveau d'instruments, des hanches. Lui, la plupart du temps, il était prêt dès le premier morceau. Et lui, ça l'énervait qu'on ait besoin de le refaire plusieurs fois. Il était réellement prêt, individuellement. Mais le quatuor, c'est vrai que la plupart du temps, sur deux prises, parfois trois, on regagnait en cohésion, parce que c'était la reprise de contact tout simplement du groupe avec ses compositions qui sont des compositions originales. Si on avait été en tournée avant, ça n'aurait pas été le cas. Mais là, on avait besoin de cette mise en route. Et donc, la plupart du temps, voilà, on enregistrait, on a eu cinq jours d'enregistrement, et on n'a pas perdu de temps, parce que la première demi-journée, c'était pour installer tout, et puis ensuite, on a enregistré un à deux morceaux dans une après-midi, parce qu'après, il faut aussi beaucoup de temps de réécoute pour vérifier ça, et c'est une musique très dense, très intense, donc ça se fait pas comme ça, il fallait que chacun soit prêt, et je demande tellement à chacun des musiciens en tant que soliste, même quand il accompagne, comme vous le disiez, qu'il faut vraiment beaucoup de concentration.
Et à l'écoute, alors une fois la prise faite, on réécoute le travail. Comment vous dites celle-là, c'est la bonne?
Je suis les conseils de Celibidache. Sergiu Celibidache, c'est le grand chef d'orchestre d'origine roumaine, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui disait « on ne marche pas deux fois dans la neige fraîche ». Donc, ce qui veut dire que quand on entre dans la cabine pour les réécoutes, je demande ce qui est le silence complet, et on fait l'écoute, et là je prends plein de notes, j'ai mon cahier. Et pour moi, c'est la première écoute qui va dire... Parce que la deuxième écoute, on commence à s'habituer un petit peu déjà. La neige n'est plus fraîche. Donc, on écoute une fois et puis là, on se rend compte si ça passe ou pas. Si ça passe, mais il y a juste un petit défaut à corriger à 2 minutes et 37 secondes. Et puis, on pense qu'on peut le corriger tout en gardant la prise. Voilà, et donc... La première écoute, c'est tout aussi intense que l'enregistrement presque. Parce qu'il faut vraiment être attentif à tout, c'est-à-dire au jeu de chacun, au son d'ensemble. Et puis voilà, la plupart du temps, après une seule écoute attentive de nous quatre et de l'ingénieur du son, parce qu'il peut aussi y avoir de la part de l'ingénieur du son une remarque, il va dire « Excusez-moi, j'ai entendu un bruit à tel endroit où il y a eu tel souci, il va falloir refaire ». Donc, en fait, on était cinq à décider. Mais puis voilà. Il y a eu des fois où on n'était pas d'accord et il fallait discuter pas mal. Et donc, chacun avait son avis. Mais en même temps, c'est passionnant parce que c'est des vraies discussions sur une recherche esthétique. Parfois, la mise en place n'est pas aussi précise, mais il y a une émotion qu'il n'y a pas dans l'autre, qui est plus sage. Donc, ces discussions-là, en studio, avec cette densité, cette tension... Pour moi, c'est vraiment comme si on était les quatre cerveaux d'un seul peintre dans une seule tête et qu'on discute la nuance sur le jaune. Est-ce que ça doit attirer plus dans un sens ou dans l'autre? Et c'est passionnant. C'est passionnant, ces discussions-là.
Mais là, c'est la première écoute, c'est-à-dire sortie de l'enregistrement. La post-production n'a pas encore été faite. Maintenant, vous l'écoutez post-produit, c'est-à-dire écoutable en réalité. Il y a une grosse marge entre les deux. Finalement, est-ce que la post-production a beaucoup agi sur cette première prise?
Non, très peu en fait. Pour ce genre de projet, hein, c'est pas une règle. Mais ce projet où c'est vraiment de la musique vivante, non, il y a faire des toutes petites retouches au niveau du mix. J'ai attendu 15 jours pour vraiment réécouter. J'avais pris beaucoup, beaucoup de notes. Je suis retourné en mixage, mais tout seul, moi, avec Manu Ledigou, dans son studio. Et là, on a retravaillé. Il avait fait déjà des pré-mix qu'on a rediscuté. Et puis après, c'est très méticuleux, mais c'est vraiment des choses ultra sensibles. Mais on va dire que 95% de l'album est déjà là. Puis après, on affine aussi au niveau des réverbérations. Par exemple, il avait choisi parfois de mettre un micro au pied de la contrebasse, légèrement éloigné à un mètre, au pied, au sol, pour avoir une résonance qui soit naturelle et utiliser très peu d'effets de réverb numérique. Et ben ça, il fallait le doser, il fallait trouver vraiment le bon dosage. Donc c'était extrêmement méticuleux, mais passionnant également.
Vous venez d'écouter la deuxième partie du titre « Romy » écrit en souvenir de l'actrice Romy Schneider. Vous écoutez « Le quart d'heure angevin » et ce n'est que sur Radio G. Aujourd'hui, vous avez la chance d'écouter une conversation avec Titi Robin à l'occasion de la sortie de son nouvel album « Le sable et l'écume ». Alors, c'est un album, c'est donc de la musique, mais c'est aussi un objet. L'objet, il est très beau, puisqu'on le voit là. Vous avez choisi un photographe qui s'appelle Mathias Benguigui.
Non, Hussein Tashken. Mathias Benguigui n'a pas fait de photos pour cet album, d'accord, mais on a déjà travaillé ensemble. La couverture de l'album, oui, c'est Hussein Tashken, qui est un photographe anatolien de Turquie.
Là aussi, comment se passe quand on a imaginé un album, qu'on a enregistrer un album et qu'il faut que ça se transforme en objet. Comment ça se passe avec les gens qui vont le rendre visible? Comment on choisit les personnes qui vont agir dessus? Comment vous avez fait?
Déjà pour la couverture, enfin, à chaque album c'est comme ça, Ribel Divana c'était la même chose. Au moment où je composais, où je réfléchissais au projet, où je travaillais sur les compositions, je réfléchissais à la couverture. Et donc, je recherchais déjà des photos. Et dans les deux cas, j'ai fait un choix de couverture vraiment en amont. Alors même qu'il n'y avait rien d'enregistré.
Il n'y avait rien. La couverture est faite en amont.
Oui, enfin, le choix de la photo. Mm-hmm. Parce qu'il s'est trouvé que j'ai trouvé dans les deux cas une photo qui correspondait à ce que je ressentais. Alors après, il y a eu les négociations auprès du photographe et de son agence. Parce que donc, c'était pas donné, le coût de la photo. Donc,
elle est belle. Hein. Elle est magnifique.
Donc j'ai dû négocier, mais comme la fois précédente, j'avais réussi aussi à négocier. Et c'était un photographe de Magnum, Sobol, un photographe danois aussi qui est très coté. Donc ça m'a aidé à pouvoir négocier pour celui-là. Et j'attends de recevoir le vinyle également, et je vais lui envoyer à Hussein quelques exemplaires des deux. J'espère qu'il sera très heureux, parce que c'est vrai que moi, pendant que je composais, je regardais cette photo et je trouvais que ça correspondait vraiment à mon état d'esprit. Donc, le moment où il s'agissait d'aller voir la personne qui allait faire le graphisme et tout, pour moi, c'était très clair qu'il y avait cette couverture-là.
Mmh. Alors, très étrangement, pour moi, cette photo, elle est très Titi Robin. On a dit tout à l'heure, la musique, elle avance. Pour moi, elle ouvre des perspectives. Mais cette photo, on est en terrain de cet homme sur ce cheval.
C'est le Titistan.
Elle est extraordinaire. Elle est effectivement magnifique. Et puis, sur la pochette, il y a des textes. Alors, j'ai lu les textes en français. Il y a des textes en arabe. Il y a des textes en anglais, mais c'est un anglais qui m'a semblé hybride, avec beaucoup de mots greffés dans cet anglais.
Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment une volonté, en dehors des textes en français. Il n'y a pas de texte en arabe, il y a un texte en persan, donc l'alphabet, c'est le même.
C'est l'inculture quand elle parle. Hein.
Mais non, mais de l'extérieur, comme ça, c'est oui. L'alphabet est le même. Donc.
Oui.
Et puis, les textes qui sont en broken English, comme on dit en Inde, c'est-à-dire un anglais avec des mots d'une autre langue.
Oui.
Là, c'est soit hindi, soit turc. En fait, j'ai décidé d'assumer en fait, un type de langage que je pratique depuis très longtemps, surtout la version anglo-indienne. Il se fait beaucoup en Inde, et puis moi, dans ma vie quotidienne, j'ai beaucoup pratiqué. Et puis, je le pratique aussi beaucoup, donc une syntaxe anglaise avec du vocabulaire turc, pour échanger, même pour traduire de la poésie, depuis longtemps. Et ça, c'est dans ma vie quotidienne. Et puis là, je me suis dit, mais ça, je vais l'assumer, je vais m'en servir pour ces textes que je mets sur ce disque instrumental. Et je vais partager cette espèce de poésie anarchique, bâtarde, mais qui correspond à mon quotidien. Donc, j'ai jamais osé mettre ça dans un livre. Pour l'instant, ça viendra peut-être. Mais en tout cas, là, je l'ai mis à l'intérieur de cet album. Et comme j'ai en Inde comme en Turquie un public qui me suit, eux, ils pourront le prendre tel quel. Et s'il y a un texte en persan, c'est parce que c'est pareil. J'ai un public en Iran et puis dans la diaspora. Et donc, c'est un texte que j'ai écrit, que j'ai demandé à des Iraniens de traduire. Et donc, c'est à leur destination.
Mmh. Alors, cette partie hybride, ce broken English, moi, elle est magnifique parce que je lis l'anglais, j'ai pas de souci. Mais cette manière d'écrire, tout d'un coup, ça développe de la poésie. C'est-à-dire qu'on est face à des mots qu'on ne comprend pas, donc qu'on fabrique soi-même. En fait, on part tout seul dans cette poésie. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique.
Si vous le permettez, je pense qu'en ligne, à partir de mon site, je vais mettre les traductions. Ah. Et donc, les gens qui seront curieux de comprendre, ils pourront aller à la recherche
de
ça. Donc, parce que j'ai envie, en même temps, que les gens comprennent. Pas uniquement les Turcs ou les Indiens, mais les autres aussi.
Mais aussi les autres, qui sont nombreux. Alors, vous en avez parlé à deux reprises, et moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai tout de suite flashé, en fait. C'est le son de cet album, on en a parlé. Et c'est effectivement moi, j'ai eu l'impression d'être dans la... dans les paysages du label ECM pour cet album, dans les sonorités de ECM. J'ai entre autres pensé à vraiment un album qui pour moi est très important, qui s'appelle Private City de John Surnam. Est-ce que je me trompe sur cette référence-là ?
C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas du tout une influence. Ça, c'est très clair. Mes influences, elles sont vers le sud et vers l'Est, très nettement, par rapport à mon langage. Par contre, je connais le travail de Manfred Eicher, de ce qu'il a pu faire avec les musiciens qu'il a invités, la manière dont il a soigné au niveau de la prise de son, toute l'esthétique qu'il a développée, je la respecte beaucoup. Et puis, il y a des musiciens que j'aime beaucoup qui ont enregistré pour lui. Ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas un rapprochement c'est absolument pas intentionnel. Mmh. Et ce n'est pas une source d'inspiration. Mais on va dire que c'est un croisement heureux.
Oui. Voilà. Pour moi, c'est un croisement heureux. Et ce que je veux dire, c'est que le travail au niveau du son, de la manière sonore, elle rend hommage au travail que vous avez fait, tout comme je pense Manfred Eicher rend hommage à Yann Garbarek et à tous ces grands musiciens qu'il a enregistrés. C'est vraiment un album complet, c'est-à-dire que même la technique s'est mise au service du projet.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis très heureux que vous disiez ça parce que Manu Leduigou, il s'est vraiment mis au service du projet, il s'est vraiment investi là-dedans de manière intense et je l'entends à chaque fois que je réécoute l'album. Mmh. Il faut dire que si moi, je ne suis pas inspiré par cette école de ECM, Chris Jennings et Renaud Pion, eux, par contre, oui, ça fait partie de leur culture. Mmh. Donc, je pense que ils trouveront sûrement ce rapprochement logique. Mmh. Et puis moi, comme je vous le dis, c'est un rapprochement qui est très heureux, qui n'est pas dans l'intentionnalité, mais c'est une rencontre qui fait très plaisir.
Pour moi, c'est vraiment un compliment. Alors, on va terminer cette rencontre autour d'un titre de cet album. C'est celui qui s'intitule « L'avant-dernier, la poétesse de Khan Younes ». Khan Younes, on ne peut s'empêcher de penser à la ville palestinienne massacrée en ce moment. Alors, qui est cette poétesse ?
C'est une poétesse qui est décédée sous les bombes à Gaza il y a quelques mois avec toute sa famille et grâce aux réseaux sociaux un certain nombre de ses poèmes ont été partagés me sont parvenus via les réseaux. Et j'avais été très, très touché par un des poèmes qui parlait d'amour, qui disait « Je suis né grâce à l'amour et donc ce que je veux partager, c'est l'amour. » Au moment où les bombes tombent et quelques semaines avant qu'elle-même soit tuée, ainsi que sa famille, par ces bombes. Donc c'était tellement éloigné de ce qu'on veut faire penser comme le fait que ce sont des terroristes dangereux qu'on tue. Non, ce sont tout simplement des gens comme nous. Et puis bon, moi, Gaza, j'y suis allé, j'y ai joué. J'ai des amis là-bas, donc, comme au Liban d'ailleurs, et au sud Liban, j'ai vu récemment un village où j'ai résidé, qui était complètement détruit. Et donc, ça fait partie de mon histoire, ça me touche. Et j'avais envie d'en parler par le haut, c'est-à-dire là, je parle d'une princesse et d'une poétesse. Voilà, j'avais envie d'en parler par le haut, pas à travers l'art, à travers ce qui peut nous réunir.
Ce qui est important de dire, c'est que ce titre-là, il n'y a pas, comme sur tout l'album, il n'y a pas de texte, c'est que instrumental, ce qui rend ce titre encore plus dense quand on l'écoute, parce que je ne connaissais pas l'histoire qui fait que vous avez composé ce titre. Mais le seul fait de lire Khan Younes, on se dit, ça raconte quelque chose qui est important. Et moi, je l'ai vraiment vécu, cette écoute, émotionnellement, à cause de ce titre-là, Ragnonès. Titi Robin, je vais vous remercier de nous avoir rendu visite dans ce studio. Je suis vraiment, moi, ravi de cette rencontre. J'allais dire comme à chaque fois, mais je pense que je peux dire comme à chaque fois. Je vais vous souhaiter un bon retour chez vous. Et
merci,
on va,
merci à vous.
On va terminer cette rencontre, justement, sur ce titre-là, La poétesse de Ragnonès. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Merci beaucoup.
C'était le quart d'heure Angevin. Rendez-vous samedi prochain à 14h.